Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute Alexis Rosenzweig au micro. Pour les informations dont voici tout de suite les titres, 7,5%, c'est le nouveau taux de chômage en République tchèque. Dernier hommage à l'écrivain Arnoš Lustig ce mardi à Prague. Et puis du cyclisme avec le tchèque Zdeněk Štybar qui a officiellement signé avec l'équipe Quick-Step. Le taux de chômage a légèrement baissé au mois de janvier en Europe, dans les pays de la zone euro, ainsi que dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce taux pour l'ensemble des 27 États membres s'élève à 9,9%. En République tchèque, le taux de chômage est officiellement à 7,5%, ce qui place le pays en 7e position du classement des pays les moins touchés, un classement que dominent les Pays-Bas avec un taux à 4,3% seulement et que referme l'Espagne avec 20,4% de la population active à la recherche d'un emploi, selon les chiffres publiés par Eurostat. Proches politiciens et écrivains se sont réunis ce mardi au nouveau cimetière juif de Prague pour rendre un dernier hommage à l'écrivain Arnoš Lustig, décédé ce samedi à 84 ans. Étaient notamment présents l'actuel ministre de la Culture, Jiří Besser, et le vice-président du Sénat, Přemysl Sobotka. Václav Havel, l'ancien président, a fait parvenir une couronne de fleurs. Une cérémonie strictement réservée à la famille avait été organisée la veille. Les Français du Puy du Fou enregistrent actuellement la musique du nouveau spectacle Le Signe du Triomphe à Prague. Composée par Frédéric Dunis, elle est enregistrée par l'Orchestre Philharmonique. 80 musiciens et 40 choristes accompagnent le scénario du nouveau spectacle, une épopée de 30 minutes qui sera représentée dans le Stadium Gallo-Romain au Puy du Fou. Prague est un lieu réputé pour la qualité et les prix d'enregistrement de bandes-son. Le 1er mars, marque le 90e anniversaire de l'édition originale du premier tome des aventures du brave soldat Švejk, le chef-d'œuvre de Jaroslav Hašek, incontournable dans l'histoire de la littérature tchèque et mondiale. Depuis cette publication, cette œuvre a été traduite dans 54 langues, dont le chinois et l'arabe. Elle reste populaire en République tchèque, où la librairie municipale de Prague a indiqué ce mardi avoir plus d'une centaine de copies actuellement en prêt. Du sport, avec, je vous le disais, en titre du cyclisme, et le tchèque Zdeněk Štybar, double champion du monde de cyclocross, qui est devenu ce mardi officiellement un coureur de la formation belge Quick-Step. « Je suis impatient de porter les couleurs de l'équipe sur la route », a-t-il déclaré à l'issue de la séance photo. Toutefois, il ne compte pas laisser tomber sa discipline de prédilection, le cyclocross. Un mot de foot pour vous dire que le Sparta Prague a battu le Baník Ostrava. C'était le premier match après la pause hivernale. Une victoire 2-0 grâce aux deux buts de l'attaquant camerounais Léonard Kouéouké à la 21e et à la 89e minute. La météo avec un ciel qui devrait rester dégagé mercredi et des températures autour de 4 degrés pour les maximales. Le temps devrait peu à peu se gâter pour devenir assez maussade ce week-end. C'est tout pour les informations. Plus d'infos, c'est sur www.radio.cz. Et c'est Magdalena Hrozinkova qui m'a rejoint dans le studio pour vous présenter les faits et événements.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, c'est toujours avec Alexis Rosenzweig que nous parlerons de la nouvelle législation que préparent les autorités tchèques pour lutter contre l'afflux de nouvelles drogues de synthèse. La disparition d'Annie Girardot, une des actrices françaises les plus appréciées du public tchèque, fait la une des pages culturelles de tous les quotidiens nationaux. Vous écouterez le témoignage du comédien journaliste Yeri Jacques qui a rencontré Annie Girardot à l'occasion d'une interview à Paris. Enfin, le portrait du théologien Otomadre, figure de proue de la vie religieuse clandestine sous l'Ancien Régime. Il est décédé à l'âge de 94 ans. Kétamine, méphédrone, carfentanil, ce sont quelques-uns des produits qui ne font pas encore l'objet d'une interdiction à la vente libre sur le territoire tchèque. Devant l'afflux de nouvelles drogues de synthèse, les députés préparent dans l'urgence une nouvelle législation. Alexis Rosenzweig.
Les autorités tchèques ont découvert il y a quelques mois déjà que plusieurs drogues de synthèse commençaient à être vendues dans des magasins spécialisés près de la frontière polonaise. On écoute Peter Nečas, le premier ministre tchèque.
C'est une affaire très sérieuse parce que ces nouveaux produits ne figurent pas sur la liste des substances interdites, donc leur distribution n'est pas en contradiction avec la loi. Ces drogues de synthèse étaient vendues en Pologne, puis une nouvelle loi polonaise les a interdites et en début d'année, elles ont commencé à être vendues dans la région de Moravie-Silésie.
Des magasins du même genre ont ensuite été ouverts dans certaines villes de Bohême. Les drogues de synthèse y sont pour l'instant vendues en toute légalité, sous couvert de produits de collection non destinés à la consommation. Pour le législateur tchèque, il devenait donc urgent d'agir. L'ancien maire de Prague, Pavel Bém, lui-même spécialiste des drogues, est un des députés du parti ODS, le parti civique démocrate, qui a préparé des modifications dans les textes pour mettre fin à la légalité de ce commerce. Il détaille les quatre types de drogues de synthèse qui doivent être interdites.
La première catégorie de ces drogues est représentée par les cannabinoïdes de synthèse qui ont un effet comparable au THC contenu dans le cannabis et qui se fument de plus en plus malgré leur prix relativement élevé. À cause des risques prouvables pour la santé publique, il faut que le changement de législation se fasse rapidement. La deuxième catégorie est représentée par les dérivés de la cathinone, à savoir surtout la méphédrone, dont le Conseil européen vient de recommander l'interdiction aux États membres.
Rada doporučila, aby členské země Evropské unie přijaly opatření.
La catégorie suivante visée par les changements dans la législation concerne deux opiacés de synthèse, le tapentanol utilisé en pharmacie et le carfentanil qui est 10 fois plus puissant que la morphine et peut être mortel. Leur vente sera contrôlée. Et enfin, la dernière catégorie est représentée par la kétamine dont le commerce doit être limité à la médecine humaine et vétérinaire. En tout, il y a 15 substances nouvelles.
Prague devrait donc d'ici peu suivre l'exemple de Varsovie. Le projet de loi sur les modifications de la loi sur les substances interdites doit être débattu lors du prochain Conseil des ministres. Ce sera ce mercredi. Et puis, il sera au programme de la prochaine session de la Chambre des députés, prévue à la mi-mars.
Je suis venu ici pour tourner des films, j'ai des souvenirs de films, mais je voulais jouer à Prague Madame Marguerite. La trouille, je l'ai toujours. La peur, je l'ai toujours. Il n'y a rien à faire. Évidemment, au cinéma, c'est plus facile, mais au théâtre, non.
C'était en juin 2003, Annie Girardeau était venue à Prague et à Hradec Králové pour interpréter pour la première fois devant le public tchèque Madame Marguerite, son grand succès sur les planches, un rôle qu'elle jouait depuis 1974. En République tchèque, la disparition d'Annie Girardeau a fait la une des rubriques culturelles de tous les médias. Tendre au poulet, on a volé la cuisse de Jupiter, docteur Françoise Gaillard, à chacun son enfer, une robe noire pour un tueur. Tels sont les titres de quelques-uns des films que les spectateurs tchèques ont pu voir encore sous le communisme et qui ont fait d'Annie Girardeau une de leurs actrices françaises préférées. On écoute Jiří Žák, comédien au théâtre pragois Divadlo na Vinohradech.
À une certaine époque, elle symbolisait le cinéma français. Avec mes collègues au théâtre, nous avons cherché une autre actrice qui pourrait rivaliser avec elle dans ce sens. Peut-être Catherine Deneuve. Après avoir tourné Rocco et ses frères et ensuite les films avec Claude Chabrol, elle est vraiment devenue pour nous une icône du cinéma français. Un cinéma qui était d'ailleurs très populaire et accessible, même sous le régime communiste.
Jiří Žák est comédien, traducteur, écrivain et journaliste. Il a réalisé une série d'entretiens télévisés avec plusieurs grandes personnalités du monde culturel français, parmi lesquelles Pierre Richard, Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert ou Robert Merle. Jiří Žák a également interviewé Annie Girardeau. Il l'a rencontrée en 1998 lorsqu'elle jouait au théâtre Saint-Georges à Paris.
Ani tehdy prožívala takové velice složitý období.
Annie Girardot traversait une période difficile. Je l'ai rencontrée au moment de son retour sur les planches. Elle avait beaucoup d'espoir et beaucoup de projets, mais c'était une personnalité complexe, fragile, sensible. Elle avait des soucis personnels. Elle s'est totalement ouverte à nous, elle nous parlait de tout. En sortant de l'interview, j'ai longuement réfléchi sur la responsabilité du journaliste, sur ce qu'il peut réellement se permettre de publier.
Před několika dny jsem ho viděla v restauraci, jak bych to, no prostě s mou nástupkyní. A byla roztomilá, no jo.
La popularité d'Annie Girardot en République tchèque est aussi due à une symbiose parfaite à l'écran entre l'actrice française et sa doubleuse tchèque Věra Galatíková. Les deux femmes se sont rencontrées lors du dernier séjour d'Annie Girardot en République tchèque en 2003. Parmi les personnalités importantes de la vie publique tchèque disparues au cours du mois de février figure également le théologien Otto Madre, un homme dont le courage et l'énergie ont marqué la vie religieuse et spirituelle du pays ces 50 dernières années. Otto Madre s'est éteint un dimanche à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui une œuvre riche et multiforme qui n'est pas facile de cerner. Václav Richter.
La longue vie d'Otto Madre est une suite d'actes de courage. Né à Prague en 1917, il fait ses études à la faculté de théologie de l'université Charles de Prague. Il est ordonné prêtre en 1942. Après la guerre, il travaille dans l'administration religieuse, publie ses premiers écrits et s'engage dans le scoutisme. Entre 1948 et 1949, il étudie la théologie morale à l'université pontificale grégorienne de Rome avant de revenir en Tchécoslovaquie malgré le danger qui le guette. Sa foi profonde et ses activités n'échappent pas aux autorités du régime stalinien. Arrêté en 1951, accusé de haute trahison et d'espionnage, Otto Madre échappe de justesse à la peine de mort, mais est condamné à perpétuité. Il passera 14 ans dans les prisons communistes et n'en sortira qu'en 1964 pour travailler comme aide-soignant, puis comme gérant d'un dépôt de musée. Le théologien Thomas Halik évoque les activités d'Otto Madre en 1968, année de la libéralisation, qui restera dans l'histoire comme le printemps de Prague.
On v tom 68. roce byl vlastně jediný, kdo byl totálně připraven. Všichni mysleli, že bude.
En 1968, il était pratiquement seul à être tout à fait préparé. Tout le monde se disait qu'il y aurait peut-être un changement, mais personne ne le prenait vraiment au sérieux. Otto Madre, lui, s'est tout de suite lancé dans les activités d'édition, s'est mis à organiser des conférences. Il est devenu une espèce d'éminence grise des évêques.
Son courage et son énergie ne quittent pas Otto Madre, même après l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique et pendant la triste période de normalisation. Tomáš Halík a été le témoin de ses activités.
La grande période de sa vie a commencé dans les années 1980. Il organisait en Tchécoslovaquie des séminaires secrets et y invitait d'excellents théologiens du monde entier. Il venait en catimini, se faisait passer pour des touristes et nous donnait des conférences secrètes dans des appartements. C'était très important pour nous qui étions menacés d'isolement spirituel.
Avant la chute du communisme en 1989, Otto Madre publie des écrits catholiques en samizdat. Après le retour de la démocratie, ses activités de publication prennent une ampleur considérable. Éditeur d'une série de livres, il est aussi rédacteur en chef de la revue Les textes théologiques. Il organise la formation des prêtres et assume des fonctions dans plusieurs associations et organismes religieux. En 1991, il est nommé docteur honoris causa de la faculté de théologie catholique de Bonn et en 1997, il est décoré de l'ordre Tomáš Garrigue Masaryk. Pour la postérité, il restera l'homme qui ne s'est pas laissé dompter et l'artisan du renouveau spirituel de la société tchèque.
Dans l'émission Panorama, aujourd'hui, Alexis Rosenzweig vous propose un entretien avec Michel Perotino, secrétaire général du Centre français de recherche en sciences sociales basé à Prague. Un entretien qui a pour principal sujet la récente initiative politique visant à faire interdire le Parti communiste tchèque.
Panorama.
Pa?
No.
Ha?
Ma.
Bonjour, Michel Perrottino.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut commencer par essayer de définir le Parti communiste de Bohème et de Moravie, le Parti communiste tchèque KSČM, ou en tout cas essayer de définir ce parti qui est souvent décrit comme le dernier parti non réformé représenté dans un parlement d'un pays post-communiste.
Alors c'est un parti qui en fait est né juste après la révolution de Lourdes. Donc c'est pas directement le parti qui était au pouvoir avant 89. Effectivement, il s'inscrit dans la continuité du KSČ d'avant 89. Il a repris notamment tous les militants. Et c'est un parti donc effectivement qui ne s'est pas transformé, notamment au plan idéologique. Donc il reste d'une certaine manière relativement dans la logique ou dans la ligne des anciens partis communistes classiques. Mais il faut quand même aussi prendre en considération un élément qui est important, à savoir que c'est un parti qui certes ne s'est pas transformé. On va lui reprocher en fait de ne pas s'être transformé en parti social-démocrate. C'est ça le gros problème qu'on va lui sortir. Mais c'est un parti qui s'est quand même adapté aux nouvelles conditions, notamment aux nouvelles conditions démocratiques. L'erreur politique, elle a consisté à ne pas avoir interdit le Parti communiste immédiatement après la Révolution de Lourdes. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons pratiques. Et ça n'a pas été fait aussi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que dans un système démocratique, on n'a pas à interdire un parti politique. Et en plus, tout le monde pensait que le Parti communiste allait disparaître. Disparaître démocratiquement par l'absence d'électeurs et disparaître physiquement par le vieillissement naturel de la population communiste, c'est-à-dire des militants communistes. C'est ce qui ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, en fait, on gère un problème qui n'a pas été réglé à l'époque. Il reste à savoir s'il est légitime aujourd'hui d'interdire un parti communiste. Pourquoi ? Quelle est la dangerosité, etc.
Que peut-on penser de cette nouvelle initiative très récente de faire interdire le KSČM ?
Alors, c'est une initiative gouvernementale, en tout cas ministérielle, qui effectivement vient de sortir il y a quelques jours. Mais elle se situe là aussi dans la continuité, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que certaines personnalités politiques invitent, notamment le gouvernement, puisque c'est au gouvernement de le faire, invitent le gouvernement à interdire le Parti communiste. Il faut voir aussi que premièrement, la critique vis-à-vis donc du Parti communiste est une critique récurrente. Donc on a quand même dans l'histoire politique tchèque depuis 1989 souvent des vagues d'anticommunisme. Il est vrai que depuis quelques années, ces vagues d'anticommunisme sont souvent liées à disons, une volonté d'interdire le Parti communiste. En plus, il faut bien voir aussi qu'il y a quelques mois, quelques années, la même procédure a été appliquée aux jeunesses communistes, puis de manière plus effective au parti d'extrême droite qui lui a été interdit.
Vous l'avez dit, cette initiative est gouvernementale, ou en tout cas des partis de la coalition gouvernementale, notamment du parti, du nouveau parti Top 09, qui semble très actif et fervent supporter de l'interdiction du Parti communiste, alors que on sait que ce parti est tenu par son vice-président, Miroslav Kalousek, qui avait eu lui-même des velléités de gouverner avec les communistes quand il était encore au Parti chrétien-démocrate.
Il faut replacer toute cette question, toute cette affaire dans son contexte, et notamment dans son contexte politique. C'est d'abord et avant tout un problème politique ou politicien. C'est-à-dire qu'effectivement, la demande d'interdiction du Parti communiste, elle émane dans une configuration ou dans une actualité politique un peu particulière. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ça ressort à chaque fois qu'il y a des problèmes un peu plus profonds. Et c'est souvent utilisé pour masquer, justement, ces petits problèmes qui sont des problèmes souvent de principe.
Masquer des problèmes, certains politologues tchèques voient cette velléité d'interdire le Parti communiste pour masquer des affaires de corruption, notamment, c'est votre avis ?
C'est vraisemblable, effectivement, oui. Affaires de corruption liées, pas forcément directement à Top 09, peut-être plus précisément à l'ODS, mais des affaires de corruption qui touchent le gouvernement à l'heure actuelle. Et puis aussi, ça aussi c'est un élément à prendre en considération, la personnalité, en tout cas l'homme politique qui doit le premier faire un pas dans le sens de l'interdiction du Parti communiste, c'est notamment le ministre de l'Intérieur. C'est à lui de monter le dossier, de trouver les pièces, de trouver les preuves qui vont étayer cette demande. Le ministre de l'Intérieur, on ne peut pas dire actuellement qu'il est indemne de tout problème à l'intérieur de son ministère, notamment vis-à-vis de la police ou vis-à-vis des sapeurs-pompiers, par exemple.
Donc, on parlait de Top 09. Le ministre, qui est lui le chef du parti Affaires publiques, également un nouveau parti ou un parti récemment créé. Et puis, l'ODS du Premier ministre Peter Nečas, qui, alors, cette semaine, a décidé de radier des cellules régionales de l'ODS qui collaboraient depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années au niveau régional avec le KSTM. Est-ce qu'il y a une surenchère, si on peut dire ça comme ça, dans l'anticommunisme entre ces trois partis de droite ou de centre-droit selon...
Alors effectivement, à partir du moment où on lance officiellement au niveau gouvernemental l'affaire, donc interdire le Parti communiste, il devient très ennuyeux d'avoir au niveau local le principal parti de gouvernement, l'ODS, qui est en coalition avec soit des élus communistes, soit des personnes qui ont été élues sur une liste communiste. Effectivement, c'est assez logique et c'est plus pour répondre à des éventuelles critiques internes, disons, au camp de la droite, que l'ODS est obligé, effectivement, de faire ce type de mesures et finalement d'exclure certains membres de l'ODS. Ce qu'il faut voir là aussi, c'est que la coopération ou la collaboration entre le Parti communiste et des partis non communistes au niveau local, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. C'est pas nouveau en soi, c'est souvent perçu comme paradoxal ou anormal, entre guillemets, lorsqu'il s'agit de partis ou d'élus de droite. Mais c'est relativement fréquent.
Et ces élus communistes, même au niveau national, sont utiles à tous les partis quand on a besoin d'eux. Je pense notamment à l'élection du président de la République.
La première élection du président Klaus a été présentée comme une élection permise grâce aux voix des élus communistes. Ce qui, à mon avis, est plus important, mais ça va dans le même sens, c'est que lorsque Klaus a fait sa première campagne, lors de l'élection présidentielle, il est allé voir y compris les communistes. Donc il les a fait rentrer dans le jeu normal parlementaire. Un candidat présidentiel va voir tous les partis pour discuter et éventuellement obtenir leur soutien. Après, le résultat, c'est-à-dire est-ce que vraiment les communistes ont ou pas apporté leur voix à Klaus, c'est une hypothèse qui est souvent présentée, elle n'est pas étayée.
Pour parler des médias, quand on regarde un peu ce qui s'écrit dans les médias tchèques, dans les médias influents notamment, je pense à l'hebdomadaire Respect qui, dans un récent numéro, avait un article de 3 pages qui était intitulé « Pourquoi il serait bon d'interdire le Parti communiste ?» Est-ce que les médias jouent un rôle dans cette histoire et quel rôle selon vous ?
Alors, les médias jouent certainement un rôle de catalyseur sur certaines questions ou des problèmes spécifiques. Mais là, en l'occurrence, je pense que, premièrement, sur le long terme, c'est-à-dire depuis 89, il y a quand même une opposition vis-à-vis du Parti communiste qui est omniprésente. Ce qui est marquant ici, c'est les vagues ou les pics d'anticommunisme. Mais sinon, l'anticommunisme est relativement... toujours présent en République tchèque. Le rôle des médias, il est un petit peu, je dirais, biaisé dans la mesure où la quasi-totalité des grands titres, y compris d'ailleurs des médias télévisés, est assez clairement du côté de la perspective de l'interdiction du Parti communiste, en tout cas de la légitimité de l'interdiction du Parti communiste.
C'était le politologue Michel Perotino, secrétaire général du CEFRES à Prague, interrogé par Alexis Rosenzweig. C'est la fin du programme de Radio Prague en langue française, présenté aujourd'hui par Magdalena Rosinkova.